partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Ce soir, je souhaiterais vous parler du nouvel ouvrage de Pierre Lursa. Pierre Lursa qui est essayiste, auteur et également traducteur. Il est auteur de plus d'une dizaine de livres et son petit dernier s'appelle « Seul dans l'Arche, Israël, le laboratoire du monde ». On peut se le procurer chez Amazon et dans les librairies françaises en Israël. Il est avec nous en ligne ce soir pour en parler. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Merci Pierre d'avoir accepté d'être avec nous et de parler de ce nouvel ouvrage que vous venez de sortir. Alors c'est un ouvrage qui a été écrit pendant la crise du coronavirus, pendant les nombreux confinements qu'on a dû vivre. On le sent dans votre écriture, on le sent dans votre réflexion. Seul dans l'Arche, Israël, le labo du monde, c'est déjà le laboratoire du monde, c'est déjà en soi toute une représentation un petit peu de votre réflexion. Alors, la crise du coronavirus a été l'occasion de réflexions profondes sur des questions essentielles, comme celle du rapport de l'homme au monde. Est-ce que nous avons aujourd'hui un nouveau monde ou est-ce que nous avons au moins un monde en commun pour toute l'humanité, selon vous, Pierre Lursa ?
Oui, c'est précisément cette question que je me suis posée parce que le constat central de la réflexion que j'ai menée dans ce livre, c'est, peut-être la perte à la fois d'un sens commun, d'un langage commun et peut-être même la perte du monde qui nous est commun. C'est-à-dire que seuls dans l'Arche, nous avons été effectivement isolés, nous avons vécu un peu dans l'isolement, dans le confinement, et peut-être que finalement, cette crise qui a des dimensions bibliques, et c'est pour ça que j'ai employé le terme d'Arche, qui revient dans ce livre à plusieurs reprises, c'est parce que elle nous a fait éprouver finalement la situation dans laquelle on est parvenu depuis déjà longtemps, depuis plusieurs décennies sans doute, et qui concerne, je dirais, les hommes en général, pas dans un pays en particulier, parce que on vit dans un monde, comme on sait, globalisé, et les phénomènes qui touchent un pays touchent en général les autres aussi. Et finalement, on s'est retrouvé dans un isolement qui est à l'image de l'isolement dans lequel nous vivions auparavant, avant même le Covid, parce que on vit dans un monde qui est à la fois ultra connecté et en même temps on est très solitaire. Et je cite à ce sujet la philosophe Hannah Arendt qui disait que l'homme où qu'il aille ne rencontre que lui-même. Et elle écrivait ça il y a bien longtemps, mais finalement c'est exactement comme ça qu'on vit aujourd'hui. On ne rencontre que soi parce qu'on est un petit peu obsédé par soi, par l'image de soi, il y a un côté nombriliste et narcissique de la société contemporaine, et qui en fait qui préexistait bien entendu à cette crise, mais qui elle l'a fait ressortir avec une acuité encore plus grande.
Tout à fait. Alors, quand vous utilisez l'image de l'Arche, j'ai envie quand même de vous dire que seuls ont été sauvés ceux qui étaient dans l'Arche et que tout le reste de l'humanité a été détruit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi avoir utilisé cette image ?
Évidemment, l'analogie n'est pas parfaite, mais l'idée, c'est que quelque part, on était tous confinés dans un espace clos et protégé du monde extérieur, puisqu'on cherchait toujours à se protéger des atteintes du monde extérieur et des autres personnes. Et donc finalement, ce confinement, il était à la fois salvateur, même s'il était très souvent vécu comme une punition. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un parallèle avec l'épisode raconté dans la Bible, parce que Dieu décide de détruire le monde et les hommes qui vont être sauvés, les animaux qui vont être sauvés, sont enfermés dans cette arche dont ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Mm-hmm. Oui, nous avons vécu dans cette attente sans connaître l'issue. Et en Israël, voilà, l'issue est sans doute arrivée, mais partout dans le monde ailleurs, elle n'est pas encore arrivée.
Alors, ce qui m'a beaucoup interpellée dans votre ouvrage, Pierre Lursa, c'est cette réflexion sur la parole, sur le parler vrai, qui aujourd'hui a l'air d'être un petit peu remis en question, puisque aujourd'hui, eh bien, les médias ont la parole suprême. La technologie est devenue un intermédiaire entre nous et les autres. On n'a plus accès en fait à cette parole humanisée, j'ai envie de dire, où on peut d'abord voir le regard, le sourire de l'autre, le toucher, lui taper dans la main si on a fait une bonne blague. On a le sentiment que tout se passe aujourd'hui par message, par WhatsApp, par Messenger, par les Zooms. Donc il y a toujours un écran interposé, une technologie quelle qu'elle soit. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait retrouver cette parole vraie, cette parole humaine?
Eh bien oui, sans doute une question cruciale que je pose dans ce petit livre, c'est de savoir est-ce que finalement le monde obsédé par la communication dans lequel on vit, est-ce qu'il n'a pas aboli un langage vrai? Et pour retrouver un langage vrai, eh bien je pense qu'il faut revenir à une pensée pré-technologique sans doute, ou une pensée d'avant l'invasion de la technologie actuelle, qui est celle de poètes et de philosophes auxquels je donne la parole et qui inspire ma réflexion. Effectivement, un langage vrai, c'est un langage dans lequel on regarde la personne qui est en face de nous et on lui parle sans aucun intermédiaire. Et de ce point de vue, les médias, ils jouent bien le rôle qu'ils ont d'intermédiaires, mais en même temps, intermédiaires qui font écran entre les hommes. Et là aussi, ce qu'on a vécu pendant le Covid, finalement, c'est le paroxysme. Cette crise a apporté au paroxysme quelque chose qu'on vivait déjà auparavant, parce qu'avec nos téléphones portables et nos ordinateurs, on est coupé des autres hommes.
Alors justement, tout au long de la lecture de votre ouvrage, eh bien vous évoquez toutes sortes de questions en fait que vous vous êtes posées et vous avez été chercher chez les philosophes des réponses et également dans le judaïsme des réponses à ces questions. Alors la grande question aussi qui est à l'ordre du jour, c'est cette notion de liberté, liberté qu'on a perdue lorsqu'on a été confiné, liberté de circuler, liberté de sortir, liberté de s'éduquer. Pour les enfants, liberté de voyager. Est-ce que la notion de démocratie a, selon vous, pris un coup dans l'aile avec cette notion de liberté qui a été bafouée quand même?
Eh bien là, je dirais que mon analyse est un petit peu différente parce que en même temps, tout le monde s'est indigné des atteintes aux libertés et en même temps, on a oublié que on attendait précisément de nos États, de nos gouvernants, qu'ils nous permettent de retrouver la liberté, on attendait d'eux qu'ils nous aident à sortir de cette crise. Donc on est devenu un peu comme des enfants capricieux qui se plaignent à leurs parents, mais pourquoi j'ai pas le droit de sortir jouer avec mes copains alors que je suis malade? Voyez, il y a une grande infantilisation du monde actuel et c'est ça aussi que j'ai voulu un petit peu aborder dans ce livre, c'est que l'homme d'aujourd'hui avec tous ses jouets, il est ultra gâté, il vit dans un univers rempli de jouets. Le téléphone portable c'est comme un jouet finalement. Eh bien, on est comme des enfants gâtés et quelque part il y a une espèce de grande infantilisation et que personnellement je considère comme une régression qui n'est pas seulement une régression intellectuelle ou morale, qui est quelque part une immense régression civilisationnelle. Et la question la plus troublante que je pose dans ce livre, c'est finalement est-ce qu'il n'y a pas une régression de la pensée humaine? Est-ce que tous ces instruments qui doivent nous aider à penser, toute cette fameuse intelligence artificielle à laquelle je ne crois pas du tout, est-ce que ce n'est pas aussi finalement le signe d'un grand abrutissement, d'un abêtissement de l'homme?
De sa pensée propre en fait, puisqu'on finit par penser pour nous.
Absolument, les ordinateurs pensent à notre place, ils nous aident pas seulement à retrouver un chemin en voiture, en taxi, ils nous aident aussi à retrouver le chemin de notre pensée et finalement ils se substituent à nous. Et c'est bien le danger de tous ces robots auxquels nous donnons une part de notre liberté et surtout une part de notre identité, de notre pensée.
Alors, on parlait tout à l'heure de cette recherche de la parole vraie, en tout cas ce retour à une parole plus humaine. Quelle place aurait la parole d'Israël dans cette crise, selon vous?
Eh bien, ça, c'est, je dirais, c'est le thème sous-jacent à ce livre qui n'apparaît qu'en filigrane, parce que c'est pas un livre écrit par un rabbin, donc c'est pas écrit, c'est pas pour asséner des certitudes, mais en même temps, j'ai quand même cette conviction qui relève plutôt de la émouna, de la foi, que Israël a des réponses à donner à l'humanité, et sur une question bien précise mais cruciale, qui est celle justement de savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. Parce que si l'homme n'est, comme on croit beaucoup aujourd'hui, qu'un système d'information ou un ensemble de neurones, un système neuronal, l'homme neuronal, comme avait écrit un biologiste français il y a déjà plusieurs décennies, alors dans ce cas-là, effectivement, on est comme des robots. Mais si l'homme est une créature, Betzelem Elohim, créée à l'image de Dieu, alors effectivement, c'est bien d'Israël que doit venir la réponse pour dire à nos contemporains qui sont souvent tout à fait désemparés, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un langage et une pensée humaine?
Alors justement, vous avez beaucoup critiqué dans votre livre le nouveau penseur et philosophe essayiste qui aujourd'hui adulé dans le monde entier, qui est un Israélien, qui s'appelle Yuval Noah Harari. Et vous revenez plusieurs fois hein, tout au long de votre ouvrage à dénoncer ce qu'il présente comme le nouvel homme. Pourquoi, Pierre Lurçat?
Eh bien, je dirais pour au moins deux raisons essentielles. La première, c'est que Harari, c'est peut-être l'Israélien le plus connu du monde aujourd'hui, le plus lu en tout cas. Et pourtant, dans sa pensée, il n'y a rien d'Israël. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, affiche ouvertement son mépris pour le judaïsme, parce que pour lui, la religion juive, le judaïsme, ce sont des vieilles histoires qui n'intéressent pas l'homme
Il
d'aujourd'hui.
affirme, il dénigre la religion, mais pas le judaïsme, pas son identité juive.
Peut-être pas son identité, parce qu'aujourd'hui chacun a une identité, mais il ne pense pas que le judaïsme a un message à donner, à apporter au monde d'aujourd'hui. Et concrètement, ça se traduit par le fait qu'il ne pense pas que l'homme soit une créature libre. Il le dit tout à fait expressément. Il dit que la liberté n'existe pas, c'est une illusion. Et sur ce point-là, eh bien, il s'oppose fondamentalement à l'idée du libre arbitre, qui est peut-être le noyau central, le cœur du judaïsme.
Alors, ce livre, on peut aujourd'hui le procurer chez Amazon et puis dans les librairies françaises en Israël. C'est un début de réflexion pour vous, Pierre Lurçat?
Oui, sans doute, c'est un livre qui amorce, qui pose beaucoup de questions, qui
C'est
apporte
ça.
peut-être quelques réponses, mais qui est surtout, je dirais, un appel, une invite à poursuivre plus avant la réflexion. Et bien sûr, je ne prétends pas avoir fait le tour des nombreux sujets que j'aborde dans les quelques pages de ce livre.
Non, parce qu'on aurait envie en fait que vous développiez un petit peu chaque passage, chaque sujet que vous abordez, parce que vous apportez beaucoup, beaucoup de références hein, philosophiques, historiques, même scientifiques. Et on a envie d'un peu plus, on a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Donc peut-être que la suite sera écrite très bientôt.
Peut-être, peut-être.
Très bien. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs que le livre s'appelle Seul dans l'Arche. Alors, on espère qu'on ne sera plus seul, justement, dans l'Arche et qu'on saura recréer le lien social, le lien amical. Israël, laboratoire du monde, par Pierre Lurçat. Merci beaucoup, Pierre Lurçat, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.